Est-ce que tu sais que la température moyenne à Paris a augmenté de 4 degrés en 100 ans?
Et que tu peux faire pousser des plantes sur ton toit pour diminuer la température en été.
Et que les arbres peuvent rafraîchir une rue de plusieurs degrés.
Tu sais, on a appris tout ça
à l'Académie du Climat.
L'Académie du Climat, c'est un lieu pour sensibiliser sur le dérèglement climatique et ses conséquences. Ce qui est cool, c'est que tout le monde peut y aller. Nous, on ne savait pas que ça existait.
Grâce à un parcours Agora, on a pu découvrir ce lieu et approfondir nos connaissances sur le réchauffement climatique.
Au départ, quand notre prof d'anglais nous a parlé de faire un projet sur le climat et les fake news, on n'était pas très chaud, parce que le sujet était un peu dur à comprendre.
Mais en allant à l'Académie du Climat,
on a changé d'avis.
Nous sommes des élèves de 3e du collège Jacques Prévert, et cette année, on a été journaliste pour Transsonore.
On a appris à faire des micro-trottoirs et des interviews radio.
Enfin, on a surtout appris à faire en sorte que les gens ne s'enfuient pas pendant les micro-trottoirs.
Et on a créé le podcast que vous écoutez en ce moment.
On habite à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis.
Un vendredi de novembre, il faisait très froid, on est allé passer la journée à l'Académie du Climat.
On est parti tôt, à 8h30 du matin, parce que c'est à Paris.
Plus exactement, près du BHV, le bazar de l'hôtel de ville, dont vous avez sûrement entendu parler depuis l'ouverture controversée du magasin Shane. Mais personne ne parle de l'Académie du Climat, qui est juste à côté.
Vous écoutez un podcast Transsonore. Transsonore, la transition et l'insertion par le son.
L'Académie du Climat a ouvert dans une ancienne mairie construite sous Napoléon III. C'est un lieu chaleureux, amical, joyeux, calme, mais aussi plein d'énergie.
Il rassemble des personnes très différentes qui ont envie d'agir pour éviter le dérèglement climatique. Il y a des professionnels et des bénévoles, des gens de tous les âges.
Ils viennent pour s'informer, débattre, trouver des solutions ou bien prendre le temps de réfléchir.
On a été accueillis par Sarah Albi, la directrice et son équipe, Enzo, Alice, Jules et Chloé. Mais avant de les interviewer, nous avons d'abord fait des micro-trottoirs.
Bonjour, nous sommes élèves de 3e au collège Jacques Prévert à Noisy-le-Sec. Nous réalisons un micro-trottoir qui, par rapport au réchauffement climatique et au climat. Est-ce que vous connaissez l'Académie du Climat qui se trouve juste derrière?
Non, pas du tout.
Non, je ne la connais pas.
Pas du tout.
Pas vraiment. Je ne suis pas d'ici.
Sarah Albi nous a reçus dans son joli bureau en haut d'un escalier en colimaçon. Elle nous a vraiment très bien reçus et a répondu à toutes nos questions.
Sans jamais être hors sujet.
Sarah dirige l'Académie du Climat depuis sa création en 2021.
Savez-vous que c'est la maire de Paris qui lui a confié ce travail?
Alors, comment êtes-vous arrivée à faire ce métier?
Parce que j'ai de la chance. C'est-à-dire que comme j'ai travaillé à la ville de Paris pendant 10 ans et qu'il y avait un nouveau projet et qu'il fallait quelqu'un pour le construire et le diriger ce lieu, donc la maire de Paris m'a confié le lieu. J'ai travaillé, écouté, beaucoup observé, autant les gens qui étaient avec moi que les gens qui voulaient travailler avec nous. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée là, 4 ans plus tard avec vous, en étant directrice d'un lieu qui est difficile à définir.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi l'Académie du Climat?
Alors, l'Académie du Climat, c'est d'abord un lieu public, un service public. Donc ça, c'est dans notre jargon. C'est un lieu, en fait, qui rassemble toutes celles et ceux qui veulent agir pour le climat, de là où ils sont. Qu'ils soient à titre personnel, en venant fabriquer, réparer des choses, que ce soit des enseignantes ou des enseignants ou des associations qui ont envie de qu'on les accompagne pour faire des ateliers pour leurs élèves, que ce soit des professeurs à l'université qui veulent aussi qu'on les accompagne pour parler climat, transition écologique, justice sociale, etc. Et c'est un lieu qui permet aussi à des gens qui ont l'impression que le monde ne va pas dans le bon sens de se retrouver avec des gens qui ont envie de remettre le monde dans le bon sens. Et aujourd'hui, où on en parle un peu moins, où il y a d'autres problèmes qui sont arrivés, et ben c'est un lieu qui est tout aussi important pour rassembler celles et ceux qui croient encore qu'il faut transformer les choses.
À quoi ça sert ?
À quoi ça sert l'Académie ? À faire du bien.
Ok, mais qui l'a fondée l'Académie ?
Alors, c'est la maire de Paris qui a eu l'idée, Anne Hidalgo, qui voulait avoir un lieu où les chercheurs, les scientifiques, les enseignants, les gens qui travaillent sur la transition écologique puissent partager tout leur savoir sur des publics qui avaient envie d'en apprendre plus.
C'est destiné à qui, cette Académie ?
C'est destiné alors à plein de gens très différents. Ça s'adresse à ceux qui ont envie de faire des choses. Il y a des gens qui ont envie de réparer leur grille-pain, bah, ils peuvent venir le dimanche à l'académie. Il y a des gens qui ont envie d'écouter de la musique engagée, ils peuvent venir à l'académie. Il y a des gens qui veulent venir fabriquer une veste ou réparer un vêtement, ils peuvent venir à l'académie. Donc, ça s'adresse à toutes celles et ceux. Il y a des gens qui ont juste envie de boire un verre ou manger quelque chose, ils peuvent venir à l'académie. Ça s'adresse en tout cas à tous ceux qui ont envie déjà. Et ça s'adresse aussi aux professeurs ou aux associations qui ont aussi envie que leurs élèves puissent aussi avoir d'autres façons d'apprendre des choses sur le climat.
Sarah est une pro, mais avant, elle était comme nous. Elle est venue progressivement à l'écologie.
Et savez-vous qui est vraiment à l'origine de tout ça ?
Ce sont des jeunes comme nous.
En 2018-2019, donc vous étiez encore petit. Mais c'était un moment où on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup climat, et notamment où il y avait des jeunes, je vais avoir quelques photos que je vous montrerai, qui manifestaient tous les vendredis pour justement interpeller, dire aux gens, dire aux adultes, dire aux politiques, vous ne faites pas assez, et qui organisaient des marches pour le climat. Donc il y avait des milliers de jeunes qui revendiquaient, qui faisaient des manifestations avec des super banderoles, des super slogans pour dire « il en faut plus, il en faut plus ». Et donc la maire de Paris a aussi parlé avec ces associations qui, dans leurs revendications, disaient « on veut un lieu ». Donc elle a dit « ok, bah, moi je veux faire un lieu, vous voulez faire un lieu, bah, on va faire un lieu ensemble ». Et donc ça, c'est venu de là, de la rencontre avec les jeunes, les associations qui étaient engagées pour le climat, qui ont décidé de faire un lieu ensemble pour la transition écologique.
Est-ce que vous y pensez souvent au dérèglement climatique ?
Oui. En fait, j'y pense même un peu tout le temps. Alors, ça prend des formes très différentes, mais déjà, j'y pense toute la journée quand je suis dans mon travail. Et puis après, on y pense forcément quand on en sort, parce que du coup, ici, c'est comme si on vivait dans une petite bulle avec des gens qui pensent comme nous. Et forcément, quand on sort, ou à peu près comme nous, et en fait, quand je retrouve ma vie, mes enfants, mes amis, les gens que je croise à la boulangerie, au café, etc., ils n'y pensent pas de la même manière que moi. Donc en fait, comme moi, c'est comme si j'avais des lunettes avec des couleurs différentes. Je vois le monde avec des couleurs différentes et je suis avec des gens qui ne voient pas le monde avec mes lunettes. Donc en fait, on s'en rend compte. Que, voilà, quand je suis au café le matin avec d'autres parents et qui disent « Ah tiens, là, il y a une promo avec le Black Friday, je vais pouvoir m'acheter 3 paires de lunettes au lieu de 2 », moi, dans mon petit cœur, je dis rien, mais je pense au dérèglement climatique.
Pouvez-vous nous partager votre opinion personnelle sur ce sujet ?
Mon opinion personnelle, mon opinion, c'est qu'il faut qu'on change les choses. C'est très important. C'est important pour protéger ceux qui vont arriver, pour protéger ceux qui sont là, pour protéger tout le monde. Mon opinion, c'est que j'arrive pas à expliquer pourquoi, mais qu'en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de faire comme si ça n'existait pas. Et ça m'est très en colère. Donc, il y a mes opinions et puis il y a mes émotions. Mon opinion, c'est qu'on peut y arriver. Mais ça demande effectivement beaucoup de travail. Ça demande à ce qu'on soit un peu plus nombreux et nombreuses en ce moment.
Comment vous allez faire pour y arriver ?
Moi, j'y arriverai pas toute seule, ça c'est sûr. Mais par contre, ce que j'essaye de voir, c'est où est-ce que moi j'ai un petit espace pour pouvoir contribuer. C'est comme le vote. Si chacun, quand on vote tout seul, là, on se dit mon vote il sert à rien. Mais si tout le monde vote, si possible pour des gens bien. Là, tout d'un coup, on a quelqu'un qui est choisi. Ben, le climat, c'est un peu pareil. Si tout le monde fait un petit effort pour aller vers ce chemin-là, normalement, on peut y arriver. Donc moi, j'essaye tous les jours d'utiliser mon petit pouvoir d'agir.
Pour faire fonctionner ce lieu, il y a 50 agents. Il y a même un jardinier qui s'appelle Frédéric. Sarah nous a expliqué les différents métiers. Ce qu'on a retenu, c'est qu'ils sont tous très engagés dans leur travail.
Mais dans la rue, on a parlé avec un oubeur qui n'était jamais rentré à l'académie. Pourtant, ils connaissaient bien le sujet.
Alors, on a demandé à Sarah comment faire pour être plus nombreux.
Comment ouvrir l'académie à plus de gens ?
Il y a faire en sorte que les gens sachent déjà que ça existe. Et après, faire venir à l'académie. Alors ça, on se pose la question tous les jours. On essaye de faire en sorte de proposer plein de choses différentes. Donc, faire des choses pour qu'ils viennent presque par hasard parce qu'il est invité par quelqu'un à faire un truc. Donc ça, c'est de se travailler avec les autres. Et deux, essayer de proposer des choses les plus différentes possibles pour que chacun ait envie de rentrer à l'académie parce qu'il intéresse.
Sur le parvis, on a aussi rencontré un vrai climato-sceptique qui nous a expliqué en mélangeant tout qu'il ne croyait pas au réchauffement du climat.
Alors pour finir, on a demandé à Sarah ce qu'elle pensait du climato-scepticisme.
Et elle nous a donné des conseils pour réussir à parler avec tout le monde.
Que pensez-vous des climato-sceptiques et de leurs opinions ?
Alors, bah, évidemment, j'en pense que c'est n'importe quoi et ça met très en colère. Mais il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre et à pas à savoir. C'est ce qu'ils le font exprès. Mais ceux que j'arrive pas à comprendre, et j'aimerais bien comprendre parce que c'est ceux-là qui m'intéressent, c'est ceux qui font pas exprès d'être climato-sceptiques, qui sont convaincus que ça n'existe pas ou qu'il faut remettre en cause. Ceux-là, il faut qu'on comprenne pourquoi ils sont climato-sceptiques et comment on peut leur dire, mais ce que vous dites ou ce qu'on vous raconte, c'est pas vrai.
Alors, ce matin, au micro-trottoir, j'ai rencontré un climato-sceptique. J'essayais de lui poser des questions, mais on dirait qu'il voulait rien savoir. Et voilà, j'aimerais savoir comment auriez-vous réagi?
Pour faire face à un climato-sceptique, il faut déjà être le plus calme possible. Il ne faut pas mélanger justement ce qu'on a envie de faire parce qu'on est énervé et ce qu'on doit faire pour essayer justement d'aider la personne à comprendre que ce qu'il raconte, ça ne va pas trop dans le bon sens. Il faut être malin. Donc, je vais essayer d'être stratégique pour ne pas lui dire qu'il a tort, parce que les gens, ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils ont tort, mais d'essayer de le faire réfléchir à la manière dont il parle du sujet. Et parfois, je vais m'arrêter là.
Après avoir monté 4 étages, on a aussi rencontré Jules.
Jules est un créateur de contenu pour les réseaux sociaux. Quand on voit son bureau, on comprend qu'il est très occupé.
Il y a un planning avec plein d'horaires.
Plein de logiciels compliqués dans son PC.
On voyait plein d'affiches collées sur le tableau pour des réunions.
Il nous a raconté son parcours et bien sûr son travail qu'il aime beaucoup et qu'il exerce depuis 6 ans à l'Académie du Climat.
Quel est votre métier ?
Je travaille ici à l'Académie du Climat. C'est un service public dédié aux enjeux environnementaux dans la ville de Paris. Et moi, je travaille à la communication. Donc, mon travail, c'est de communiquer sur ce qu'on fait ici à l'Académie du Climat et même un peu plus. J'ai l'occasion de rencontrer des acteurs et des actrices qui travaillent, qui se battent et qui luttent pour les enjeux écologiques au quotidien. Et moi, j'essaie de mettre en lumière toutes leurs missions et tout leur travail du quotidien.
Pourquoi faites-vous ces métiers ?
Parce que je voulais que mon secteur professionnel soit en cohérence avec mes valeurs personnelles. Et du coup, j'ai réussi à trouver un moyen de relier mon travail pour le contenu vidéo, photo, etc. avec mes valeurs écologistes.
Votre compte sur les réseaux sociaux, il est tenu par l'Académie ou par vous ?
Il est tenu par l'Académie. Comme je disais tout à l'heure, on est une équipe en communication d'environ 7-8 personnes. Et du coup, c'est notre travail à nous qui est visible sur ces plateformes-là.
Comment reconnaître les fake news et les signaler ?
Alors, comment reconnaître une fake news ? C'est ce qu'on appelle des sources. On va voir d'où provient l'information. Quand quelqu'un donne une information, elle est normalement censée donner la provenance de cette information. Donc il faut aller chercher d'où provient cette source et ensuite se renseigner sur cette structure ou si cette personne est pertinente à donner cette information-là.
Pourquoi nous, les jeunes, ne voyons pas votre contenu ?
Pourquoi vous, les jeunes, vous ne voyez pas notre contenu à l'Académie Climat ? C'est parce que vous êtes justement trop jeunes et que l'algorithme de ce réseau-là ne pousse pas notre contenu directement à votre cible, parce que en fait, les algorithmes fonctionnent pour donner du contenu qui va, selon lui et selon ses critères, créer de l'interaction et ensuite pousser les gens à rester sur cette plateforme. Et c'est pour ça qu'en fait, l'algorithme enferme les gens dans différentes bulles pour que les personnes restent dans les sujets qui, comme je rappelle, selon ses critères et selon ses informations, pensent que c'est le plus pertinent. Et du coup, quand nous, à l'Académie du Climat, on crée des sujets écologiques avec certains discours, avec certains éléments de langage, ils pensent et décident que ces informations-là seraient plus pertinentes pour cette catégorie de personnes-là. Et donc, l'algorithme va pousser seulement à ces personnes-là. Il va le tester de temps en temps avec d'autres personnes. Donc si ça marche et que l'information plaît et que les gens interagissent sur le contenu, l'algorithme se dit « c'est bon, c'est un contenu qui plaît à un plus large public », il va commencer à le pousser. Mais dans la grande majorité des cas, en fait, l'algorithme va seulement pousser le contenu sur une certaine partie de la population.
Comment fait-on pour informer les plus jeunes ?
Il faut justement se battre contre ces algorithmes-là et trouver des manières de les contourner. Et pour les contourner, il faut connaître ses usages, ses codes, etc. Et en connaissant tout ça, on va pouvoir trouver et adapter du contenu qui permettra de pouvoir toucher cette partie de la population. Donc ça peut être en utilisant certains éléments de langage. Il y a aussi le rythme dans le montage. Il peut y avoir plein de façons différentes pour pouvoir toucher cette partie de la population-là.
Est-ce que dans votre vie quotidienne, vous essayez d'informer les autres, votre famille, votre entourage ou les gens qui ne sont pas forcément au courant de tout ça ?
Très bonne question, oui. Effectivement, mon travail a quand même un impact sur ma vie personnelle. Et Camille Etienne disait que la plus grande source d'information, ce sont nos proches. C'est à travers ces personnes-là aussi qu'on va pouvoir avoir une réelle influence. Et effectivement, c'est des discussions qu'on a autour de la table, qu'on a pendant les périodes de fêtes de fin d'année, qui sont très importants, même s'ils sont parfois difficiles à traiter dans le personnel.
À l'Académie du Climat, il y a même un studio de radio. C'est un lieu assez chaleureux, avec une tablette de mixage. C'est là que nous avons interviewé Alice Castle.
En anglais.
Car Alice est britannique, c'est la responsable pédagogique.
Elle parlait assez vite, alors nous lui avons demandé de parler plus lentement. Mais la passion a vite pris le dessus. On a quand même réussi à retenir des choses. Par exemple, elle est née en Angleterre, où elle a appris le français.
Après avoir été professeure, elle est venue travailler à l'Académie du Climat. Elle veille à ce que les élèves qui visitent le lieu se sentent à l'aise et apprennent un maximum de choses. Alice s'est montrée très pédagogue et grâce à ça, on a réussi à se sentir comme des vrais journalistes.
It happened to me when I was an adult that I started caring about the environment and I was actually in Tanzania.
Je n'ai pas toujours été intéressée par le changement climatique.
In Tanzania, in East Africa,
and j'ai eu un déclic quand je suis devenue adulte. Je travaillais avec des professeurs en Afrique de l'Est, en Tanzanie. Là-bas, j'ai appris que les filles et les femmes seraient les plus affectées par le changement climatique. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à changer des choses dans ma vie personnelle. Ensuite, j'ai voulu me former et travailler sur l'environnement.
C'est au troisième étage de l'Académie du Climat que nous avons interviewé Chloé.
Son travail à elle, c'est la communication. Elle s'occupe aussi des réseaux sociaux de l'Académie, comme Jules.
Forcément, elle doit faire très attention aux fake news. Elle nous a expliqué son métier et son importance.
Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire ?
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de pouvoir participer à diffuser ces sujets-là. Donc, de sensibiliser les gens, de les inviter à venir, de aussi, sur les réseaux sociaux, par exemple, on produit beaucoup de contenu qui permet de faire connaître au-delà de nos murs. On touche une audience très large. Et donc ça, c'est important parce que on diffuse l'information, on informe les gens sur des enjeux qui sont très graves, parfois un peu inquiétants, parfois des nouvelles positives aussi. Et donc c'est hyper chouette et gratifiant de pouvoir donner des clés de lecture et d'information pour mieux comprendre la situation dans laquelle on se trouve sur les sujets écologiques, climatiques, de pollution, etc.
Est-ce qu'on a déjà essayé de vous convaincre à ce que, tout ça soit faux, à ce que le dérèglement climatique n'est pas lié aux activités humaines ?
Alors, c'est toujours... moi, je trouve que c'est un débat qui revient toujours régulièrement. Pour rien n'est acquis, mais ce qui est bien avec le dérèglement climatique, c'est qu'il y a vraiment un consensus scientifique derrière. Donc, en fait, c'est une idée qui est vraiment vérifiée d'un point de vue de méthodologie, d'un point de vue scientifique. Et donc, en fait, il faut toujours faire preuve de pédagogie pour réexpliquer ça aux gens. Mais là, on oppose des faits scientifiques à des opinions. Et juste, ce qui est dangereux, c'est que là, de plus en plus, notamment avec l'administration Trump, on coupe des financements ou on coupe des moyens de parole aux scientifiques. Donc, ces scientifiques qui apportaient la parole sourcée pour balayer les arguments des climato-sceptiques. Là, on les met de plus en plus en danger. Enfin, on les empêche de parler, on les empêche de travailler. Et donc, c'est important, là, de soutenir aussi tous ces scientifiques, ces chercheurs qui permettent d'avoir
une compréhension de ce qui se passe et qui justement permettent de défendre le fait qu'il y a bien un changement climatique qui est causé par l'activité humaine.
Avez-vous déjà cru à une fake news ?
Alors, pas que je sache, mais peut-être que c'est déjà arrivé sans le savoir, mais j'essaye d'être très rigoureuse, en tout cas notamment dans mon travail, et de vérifier plusieurs fois mes sources pour ne pas participer à la propagation de fake news. Et on travaille très rigoureusement à l'Académie, on a d'ailleurs un pôle scientifique qui est spécialement dédié au fait de vérifier les informations pour vérifier qu'on ne raconte pas des mensonges ou des informations fausses.
Nous avons eu la chance de rencontrer Rémi Kenzo, un journaliste de 37 ans. Attention, son prénom, c'est pas Rémi, c'est pas Kenzo, c'est Rémi Kenzo.
Il fait partie d'un collectif qui s'appelle Enquêto, parce que travailler en groupe, c'est plus pratique pour rassembler plein d'idées et plus de preuves.
C'est un homme calme, mais passionné, qui s'est spécialisé dans le racisme environnemental et les pollutions industrielles. Il nous a expliqué la façon dont il travaille.
Au départ, Rémi Kenzo a fait des études d'archéologie. Et puis, il est devenu journaliste. Il est journaliste pigiste, ça veut dire qu'il est payé à la commande. Il ne travaille pas pour, mais à l'Académie du Climat, où il partage un bureau.
Pourquoi votre bureau est-il à l'Académie du Climat ?
Alors, on est à l'Académie du Climat parce que... Parce que ça, en fait, nous, on est un collectif qui s'est spécialisé sur les pollutions industrielles. Mais il y a un lien assez évident quand on parle de climat. La réalité, c'est que quand on veut atténuer le dérèglement climatique et quand on veut aussi lutter contre des catastrophes écologiques, finalement, on lutte quand même un peu pour des mêmes choses. C'est des questions qu'il ne faut pas tant séparer l'une de l'autre. Et nous, quand on investigue sur la question des pollutions industrielles, en fait, concrètement, on investigue sur... Des saccages écologiques. Donc le lien, il est quand même très évident aussi.
Sur quel sujet travaillez-vous en ce moment ?
Alors là, juste avant vous, j'envoyais la correction d'un article sur le chlordécone, qui est un produit, un pesticide, un insecticide plus précisément, qui a été employé particulièrement dans les Antilles françaises. Et c'est un des sujets sur lequel je travaille beaucoup. Et donc là, pour le magazine Fracas, pour la prochaine revue, puisqu'il s'agit d'une revue trimestrielle, donc pour le numéro de qui va correspondre aux fêtes. Donc on a fait un dossier avec une autre collègue du collectif Enquêto sur les lobbies de la banane, et donc qui sont responsables en partie de l'empoisonnement des Antilles au chlordécone.
Quelle est la fake news auquel vous avez été exposé ?
En fait, quand on enquête sur les industriels, on est quand même amené à beaucoup discuter avec ces industriels-là. Et parfois, ils nous baladent. Concrètement, ils nous vendent souvent des produits ou un monde très bien emballé, très beau, auquel on a envie de croire. Et nous, notre métier de journaliste, c'est d'aller fouiller derrière, de décortiquer un petit peu tout ça et de voir derrière l'emballage, en fait, ce qu'il y a réellement en dessous. Et ce qui est moins joli. Et donc, par exemple, là, en ce moment, j'enquête sur les industriels de la banane aux Antilles. Et quand on arrive à accéder à eux, parce que ce n'est pas toujours le cas, hein, parfois, ils refusent de parler, mais quand on arrive à leur parler, ils nous vendent quand même une banane extrêmement vertueuse, hyper bonne pour la santé, qui serait très écologique, et qui, en plus de ça, serait source de performance sportive, physique, etc. Sauf qu'en fait, nous, en tant que journaliste, on va fouiller un peu, on va voir ce qu'il en est réellement derrière ces propos. On se rend compte d'une chose, c'est que la banane, déjà, l'argument de la banane, c'est quelque chose de très écologique. C'est un produit qu'on va venir faire importer de très loin, pour commencer. C'est un produit qu'on va faire venir d'Afrique ou des Antilles, etc. Donc, il y a un coût écologique déjà à le faire venir là, parce qu'en fait, ce n'est pas un produit local. Ensuite, c'est un produit qui est cultivé en monoculture. La monoculture, donc, c'est un système de production agricole où, en fait, il n'y a qu'un seul type de culture qui domine, mais qui a des conséquences très importantes sur les écosystèmes, sur les sols, ça appauvrit... la biodiversité, ça appauvrit les sols, ça dégage aussi des pollutions. Et puis, ça peut être responsable de catastrophes, comme par exemple des inondations, ce genre de choses. Ensuite, c'est une culture, en ce qui concerne les Antilles, qui est la cause en fait d'un empoisonnement, puisqu'on parle du chlordécone. En fait, c'est parce que il y a des bananes qu'on a empoisonnées un territoire entier pour des centaines, voire des milliers d'années.
Comment on peut être sûr que les scientifiques ne disent pas ce qu'on doit, ce qu'ils veulent qu'on entende et pas ce qui est vrai?
Bah, alors, ensuite, les scientifiques aussi, il faut vérifier, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'eux-mêmes ont des systèmes de sélection avant de publier une étude. En fait, il y a des systèmes de vérification entre eux. Enfin, c'est assez élaboré la manière dont la recherche scientifique est validée avant publication. Ensuite, ça n'empêche pas qu'il y a eu des cas quand même plutôt exceptionnels de fraude scientifique, etc. Donc, il faut être prudent, évidemment, ça reste une source comme une autre. Mais globalement, il y a quand même des principes scientifiques qui font que les recherches, quand elles sont publiées, en général, sont quand même assez solides. Il y a un truc, c'est que... Enfin, il y a un drame dans la profession qui est qu'il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas de culture scientifique, en fait. Et c'est vrai qu'il faut une certaine culture scientifique pour comprendre un certain nombre de données, être capable de lire correctement et comprendre un article scientifique, par exemple, c'est pas donné à tout le monde. Donc en fait, il faut se former, tout simplement, il faut apprendre, il faut se former. Moi, par exemple, je me suis formé concrètement au sujet de biodiversité, de l'écologie de façon générale. C'est une science, en fait, l'écologie. D'abord, c'est une science du vivant et il faut comprendre les logiques qui sont sous-jacentes à cette science, quoi.
Comment faites-vous pour vérifier vos sources ?
La première chose, c'est que tu commences par croiser tes sources. Tu te contentes pas d'une seule source, normalement. Tu demandes aussi des preuves matérielles, en général. Tu te fies pas uniquement à des témoignages. Tu te fies pas uniquement à la parole, en fait, des personnes que tu rencontres. Donc, quand on parle de preuves, ça peut être toutes sortes de preuves. Hein. Ça peut être des enregistrements, ça peut être des mails, des preuves écrites, ça peut être... des documents, voilà, ça peut être tout un tas de choses, des PV de réunion, enfin voilà. Voilà. Et puis ensuite, tu rencontres un certain nombre de personnes, tu croises tes sources, tu fais du contradictoire, donc tu vas aussi voir les personnes qui sont mises en cause, etc., etc.
Compagnie, c'est bon.
Est-ce que vous pensez que si on s'unit tous, on peut réduire en grande partie le dérèglement climatique?
Alors, non seulement je le pense fort, mais je pense qu'il faut absolument le faire. Et oui, il faut s'unir, mais s'unir en s'écoutant, parce qu'on n'a pas tous envie de la même chose tout le temps. Mais oui, il faut s'unir et puis toujours se rappeler pour qui on le fait, pour nous.
En tout cas, j'ai pas du tout envie de baisser les bras. Et je pense que c'est encore possible d'agir et que rien n'est encore joué d'avance, en fait. On construit chaque jour notre futur et ce qui va arriver, donc... C'est tout à fait possible encore d'inverser la tendance.
Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps pour cette interview.
Merci beaucoup de nous avoir accordé 34 minutes et 58 secondes pour cette interview.
Enfin, ouais. En tout cas, merci.
Merci. Merci.
C'était long. Peut-être que j'avais mal aux jambes, excusez-moi.
Ce podcast a été réalisé par
Salia,
Fatima,
Abdoulaye,
Fares,
Elé,
Constantin,
Yousra,
Jenna,
Abdallah,
Maki,
Alissa,
Kate,
Daouda,
Mélina,
Gina,
Rida,
Mustacel,
Diaby,
Sabrina,
Joël,
Jamilatou.
Avec l'aide de Laure, Frédéric, Alicia, Maïsan, Joshua et Antoine de l'association Transonore.
Et de nos professeurs, M. Savouré, Mme Torres, Mme Cardiles et M. Gavens.
Merci à l'équipe de l'Académie du Climat pour son accueil. Et merci aux fresqueurs du climat,
bénévoles,
Pierre et Laure qui sont venus nous former au collège.
Grâce à ce projet, on est devenus des experts du climat. Donc maintenant, on ne peut plus nous raconter n'importe quoi.
Maintenant, on est des leurs.